Bienvenue au Mouvement Utopia et son podcast Les Événements Utopia. Chercheurs, chercheuses, citoyens, citoyennes présentent leurs ouvrages qui contribuent à imaginer une société du bien vivre à la librairie Utopia.
Bienvenue à la librairie Utopia. Vous vous trouvez ce soir dans les locaux d'une petite librairie parisienne autogérée qui est spécialisée dans les ouvrages fondamentaux de l'écologie politique et des luttes d'émancipation. Cette librairie, elle est associée au Mouvement Utopia, qui est une association d'éducation populaire qui réfléchit collectivement à un projet de société qui soit à la fois soutenable et émancipateur, c'est-à-dire libéré des rapports de domination. Et cette association, elle comprend également une maison d'édition, les éditions Utopia, qui publient de nombreux essais politiques sur des sujets variés que vous pourrez retrouver ici même et que je vous encourage fortement à feuilleter. Donc moi je m'appelle Sébastien, je suis bénévole à la librairie et j'aurai l'honneur d'animer la rencontre de ce soir. Rencontre sur un thème assez sombre, mais quand même nécessaire, hein, puisqu'on va parler des liens qu'on peut tisser entre la construction des masculinités contemporaines et les violences sexistes et sexuelles faites aux femmes, les fameuses VSS. Donc vaste sujet donc, mais on va partir d'un constat déjà qui est universellement partagé et extrêmement bien documenté maintenant. Ce constat, c'est que l'immense majorité des violences faites aux femmes sont commises, surprise, par des hommes. Ces violences, elles peuvent être physiques, bien sûr, comme des coups, elles peuvent être psychologiques, comme des injures ou du harcèlement moral, et dans le cadre des violences sexuelles, bah, les deux composantes, hein, physiques et psychologiques, peuvent être présentes. Donc pour vous donner une idée de l'ampleur du problème, selon le dernier rapport du Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes, en France, on a une femme sur sept qui déclare avoir reçu des coups de la part de leur conjoint, et une femme sur trois qui déclare avoir déjà vécu un viol au cours de leur vie. Et ça, c'est sans compter les féminicides, hein, à l'heure où je vous parle, c'est-à-dire fin mars 2023. L'association féministe Nous Toutes recense au moins 31 féminicides sur le territoire national, ce qui représente en moyenne un décès tous les 3 jours environ. Donc ces chiffres, personnellement, je les trouve glaçants, je sais pas pour vous, puisqu'ils témoignent quand même d'une violence qui est à la fois profonde et systémique, structurelle, et à mon sens, ils devraient interpeller quiconque souhaiterait vivre dans une société un peu moins violente et un peu plus juste. Donc dans ce but, je vous propose de réfléchir ce soir à la nature des mécanismes qui permettent à ces violences de se perpétuer. Et l'idée qu'on va explorer ensemble, c'est que bah, ces violences, elles sont pas causées par une espèce de nature masculine qui serait par essence plus violente, mais plutôt par une construction sociale et historique, et plus précisément par la socialisation des hommes dits hétéros dans une société patriarcale. Donc on va voir que cette socialisation, elle crée des représentations et un contexte qui favorise les violences faites aux femmes et qui les normalise, et qui fait que les agresseurs ont tendance à se soutenir entre eux. Donc au passage, on en profitera pour détruire certains mythes qui sont encore tenaces et qui servent encore aujourd'hui à justifier la domination masculine sur les femmes, mais aussi la domination entre les hommes. Donc pour ce thème absolument fascinant, j'ai la chance d'accueillir à côté de moi Florence Porcel. Florence, tu es autrice et parmi la quarantaine de femmes qui ont témoigné pour dénoncer les agressions sexuelles et les viols de Patrick Poivre d'Avor, tu as été la première à avoir eu le courage de le faire publiquement. Et tu viens nous présenter Honte, qui est une plongée à la première personne dans la honte, ou plus précisément dans l'humiliation publique, hein, que tu as vécue suite à la plainte que tu as déposée en 2021 à l'encontre de PPDA pour viol aggravé. Viol que tu as notamment relaté de manière assez poignante la même année dans Pandorini, qui est un roman d'inspiration autobiographique dans lequel tu explores les mécanismes d'emprise et le traitement médiatique des VSS. Mais Honte, c'est pas seulement le récit de ton expérience personnelle, c'est aussi une analyse du traitement juridique des victimes des violences sexuelles en France, qui est absolument révoltant, et des hontes qui sont spécifiquement liées au genre féminin et qui permettent en pratique d'asseoir la domination masculine, hein, comme toujours. Et dans cet essai, tu plaides pour un monde où la honte change enfin de camp. On espère que ça arrivera un jour. Et à ma gauche, j'ai Léane Alestra, qui est autrice et animatrice de Mécréante, qui est un super podcast et une page Instagram féministe qui interroge nos représentations autour du genre. Et tu publies aux éditions J.C. Lattès ton premier essai, « Les hommes hétéros, le sont-ils vraiment ?» un titre qui interpelle l'homme hétéro que je suis. C'est un essai assez documenté dans lequel tu invoques la sociologie, l'histoire, l'anthropologie, la théologie, la littérature et la pop culture pour décrypter les ressorts des relations romantiques hétéro. Et dans ce livre, tu proposes notamment une explication d'un phénomène social assez paradoxal, en tout cas en apparence. Ce phénomène, c'est que le fait que les hommes hétéros ont tendance à désirer et à avoir des relations avec des femmes, tout en s'intéressant assez peu aux femmes en question, voire même dans certains cas à commettre des violences sur elles. Donc cette explication, on peut la résumer par cette citation de Virginie Despentes, qu'on retrouve d'ailleurs au début de ton livre. Cette citation, elle dit « Les hommes aiment les hommes, ils nous expliquent tout le temps combien ils aiment les femmes, mais on sait toutes qu'ils nous bobardent, ils s'aiment entre eux ». Donc on va commencer dans le vif du sujet par l'épineuse question de la parole des victimes et plus précisément de la remise en question de cette parole dans l'espace public. Quand les survivantes de violences sexuelles parlent de ce qu'elles ont vécu ou qu'elles dénoncent publiquement leurs agresseurs, il y a quand même certains poncifs qu'on retrouve de manière assez systématique dans la bouche de personnes extérieures qui commentent ces témoignages. Ces personnes, ce sont le plus souvent des hommes, hein, parfois des proches, qui ont tendance à nier, voire invalider l'expérience de ces victimes, à défendre les agresseurs, voire même à légitimer la violence qu'elles ont vécue sous prétexte qu'elles l'auraient bien cherchée. Il faut savoir que ces poncifs font partie d'un contexte culturel plus large, que les sociologues appellent la culture du viol. Et donc, Léane et Florence, vous avez toutes les deux eu à faire face à de tels commentaires à vos échelles respectives. C'est quoi, selon vous, ces poncifs qui reviennent le plus souvent et comment est-ce qu'on les démystifie ?
Oui, alors, parmi les mythes que l'on entend régulièrement, que moi j'ai vécu, c'est d'abord, bon déjà il y a une présomption de malhonnêteté sur les femmes qui dénoncent des violences sexistes et sexuelles. Les gens, parce que je vois ça comme un groupe pas forcément homogène, mais en tout cas je ne sais pas qui individuellement dit ça, mais c'est des retours que j'ai eu des réseaux sociaux, donc c'est une masse que je ne peux pas appeler autrement que les gens, mais les gens partent du principe que si une femme dénonce des violences sexistes et sexuelles, c'est pas forcément parce qu'elle a vécu des violences sexistes et sexuelles, mais parce qu'elle a un intérêt à le faire. Un intérêt qui serait financier. On voit pas trop où, parce que je rappelle que personne n'a quoi que ce soit à gagner à dénoncer ce genre de violence, et a fortiori financier. Enfin, on n'est pas dans le système américain où il y a des arrangements qui se font à coup de chèque à 1 million. Ça n'existe pas en France. C'est juste qu'il n'y a même pas d'exception pour confirmer la règle. Ça n'existe pas. Ça s'appelle une licorne. Une créature qui n'existe pas, mais en laquelle les gens croient beaucoup. Également le fait qu'on ait un intérêt de gloire à raconter ce genre de choses. Alors je ne vois pas qui aurait envie d'être connu pour être connu pour des faits de violence sexuelle. C'est super intime, c'est super humiliant. Personne n'a envie d'être connu pour ça, en fait. Donc ça, c'est vraiment les plus gros... les reproches qu'on nous fait, en tout cas systématiquement, ceux qui arrivent le plus fréquemment. Et comment on peut les démystifier ? C'est très simple, en donnant des chiffres. Souvent ça calme tout le monde, enfin non, en fait ça calme pas, c'est ça qui est déprimant. C'est que moi ce que j'ai découvert en écrivant mon livre, c'est par exemple en 2020 le montant moyen des dommages et intérêts que reçoit une victime de viol quand elle a gagné son procès et que son agresseur a été condamné, c'est 24 000 euros. Voilà. On est loin des millions d'échecs américains, et c'est 24 000 euros, donc en moyenne, qu'il faut mettre au regard du prix de la procédure judiciaire, qui va de plusieurs milliers d'euros à plusieurs dizaines de milliers d'euros. Ça est à mettre au regard des frais dépensés pour se soigner, par exemple les psychothérapies qui ne sont pas remboursées par la sécurité sociale, des médicaments, éventuellement des médecines alternatives. Enfin bon, bref, c'est tout un budget, en fait, pour se remettre d'agression sexuelle ou de viol, et je suis pas sûre au final que 24 000 euros suffisent à rembourser déjà la victime de ce qu'elle a dépensé, et il ne lui reste plus rien pour les dommages et intérêts vraiment en termes de préjudice subi. Donc ça c'est une première chose, et la gloire, vraiment, encore une fois, personne n'est devenu célèbre et n'a construit sa carrière ou je ne sais quoi, ou une vie heureuse et épanouie après avoir dénoncé des violences sexuelles. Je n'ai pas d'exemple, c'est pareil, ça n'existe pas. Donc encore une fois, cet argument est nul et non avenu. Malheureusement, c'est vraiment des choses qu'on se prend dans la figure systématiquement. Et il y en a d'autres, bien sûr, mais je vais passer la parole à Léane.
Un petit chiffre aussi dont on parle peu, c'est que par exemple les victimes de viol et de violences sexuelles ont 47% de chances supplémentaires de choper une maladie auto-immune suite à des viols. Et en fait, les conséquences des traumatismes qui sont physiques, on en parle très peu. Et effectivement, comme tu disais, il n'y a aucun dommage et intérêt. Donc voilà, c'est des choses qui sont très concrètes et qui sont complètement masquées. En fait, même des revendications féministes parfois, ce truc de rendre de l'argent, parce qu'il y a des gens en fait qui perdent 15 ans de carrière et du coup ça impacte sur leur retraite, et c'est un sujet d'actualité. Enfin, c'est quelque chose qui est vraiment très tentaculaire et on en parle très peu. On parle aussi pas des personnes qui vont développer de la schizophrénie ou d'autres problématiques suite à des violences sexuelles. C'est vraiment quelque chose qui est très impactant et très large, pas pour tout le monde mais pour certaines victimes. Moi dans mon cas, j'ai subi des viols au lycée de la part de ce que je pensais être mon meilleur ami, qui souvent ça apparaît dans un contexte où moi j'avais des problèmes familiaux, etc. Donc du coup, j'allais beaucoup chez ses parents, etc. Donc il y avait un terrain qui était très favorable avec une... Lui, il était très bourgeois, avait beaucoup d'argent, donc il y avait vraiment un ascendant aussi, même si c'était bien moins que, j'imagine, PPDA. Mais voilà, du coup, donc j'étais en terminale et je me suis retrouvée avec, du coup, le directeur qui a été convoqué quand j'étais la troisième fille. Donc il était vraiment... Il a fait une dizaine de victimes, mais bon, c'est un blond aux yeux bleus bourgeois, donc il a jamais été inquiété pour ce qu'il a fait. Et même c'est pire que ça, parce que du coup, je me suis retrouvée dans le bureau du proviseur qui m'a demandé de détailler tous les rapports sexuels que j'avais eu dans ma vie, de lui dire exactement combien de copains, si j'avais bu, s'il avait mis un préservatif, si j'étais sûre d'être pas un peu une chaudasse, si je portais des sous-vêtements. Enfin, vraiment, la totale, c'était juste avant MeToo. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé d'autre? Et j'ai demandé à changer de classe ou à ce que lui change de classe. Et ça m'a été refusé parce que c'était vu comme un, je cite, caprice. Et du coup, j'ai passé toute mon année de terminale avec mon violeur qui me soufflait dans le cou exprès à chaque cours. Et j'ai survécu, yes, let's go. Donc du coup, voilà, c'est des choses très concrètes et qui sont d'une banalité. Malheureusement, son nom, puisqu'on le disait, une femme sur trois doit vivre avec ça et ça a des conséquences très concrètes, quoi. Voilà.
Merci, Léane.
Intense, désolée.
Ah non, au moins, ça m'évite dans le sujet. Hein, ça... Voilà. Donc, ces remarques sexistes et ces violences sexuelles, on est d'accord qu'elles ne sont pas présentes dans le package masculin, c'est pas inné chez les hommes. Donc d'ailleurs, Léane, tu développes dans ton livre que ces violences, elles découlent d'un conditionnement social qui a lieu à toutes les étapes de la vie des hommes, et en tout cas dans le contexte occidental contemporain, on va pas parler d'autres pays ou d'autres cultures. Mais ce conditionnement, il passe notamment par un rejet et une dévalorisation de tout ce qui est considéré comme la sphère féminine, et dans certains cas, elle peut aussi passer par des espaces de socialisation où les femmes sont carrément exclues. Donc c'est les fameux boys clubs dont vous avez peut-être entendu parler. Pour comprendre ces dynamiques sociales, donc Léane, tu développes l'idée selon laquelle il existerait une sorte de pyramide des masculinités, et tu files une métaphore assez intéressante, celle du père, avec un grand P, donc un père symbolique, qui n'est pas forcément notre géniteur. Donc est-ce que tu peux nous développer ce que tu entends par là, et comment est-ce que ce concept il est pertinent pour comprendre comment se construisent les identités viriles dans notre société?
Les hommes se distinguent des femmes, donc très concrètement ça donne les petits garçons qui très jeunes vont dire « je ne suis pas une fillette », parce qu'ils ont compris que du coup il y avait un rapport de domination et que c'était plus valorisant d'être un petit garçon et qu'une fillette c'était la honte. Donc ils se distinguent des filles, mais ils se distinguent aussi entre hommes. Entre hommes, il y a aussi une compétition qui est très forte, et il y a plusieurs masculinités. Donc il y a la masculinité hégémonique, ça c'est la masculinité qui est la plus valorisée. Donc c'est être un homme blanc, cis, hétéro, bourgeois, avec un passeport européen, enfin tout un tas de trucs. Après il y a les masculinités complices, donc ça c'est les hommes qui rentrent pas totalement dans le cliché, mais qui vont essayer d'avoir la validation des hommes de l'hégémonie. Donc par exemple, je sais pas, le gars un peu timide et mal dans sa peau, qui va tout faire pour être accepté de l'équipe de foot, enfin bref, voilà, pour être dans le cliché. Ensuite, il y a les masculinités subordonnées, donc là, par exemple, un mec racisé, un homme homosexuel, et marginalisé, donc là, c'est vraiment la figure de l'autre, donc ça peut être, par exemple, un homme sans papier, racisé, queer, enfin, je sais pas, c'est vraiment, il y a une notion de cumul des points considérés comme négatifs, quoi, des oppressions. Et voilà, et du coup, les hommes se distinguent des femmes, mais se distinguent aussi entre hommes.
Et cette figure du père, du coup?
Ah oui, pardon, cette figure du père, oui, on en revient. Donc du coup, il y a une pyramide, parce qu'il y a vraiment genre plusieurs couches de masculinité, et des masculinités qui sont les plus favorisées. Et on est dans une société patriarcale, et donc en fait, dans les sociétés patriarcales, il y a tout un tas d'indicateurs très concrets. Par exemple, le fait qu'il y ait une monnaie unique, Ça, c'est un indicateur qu'on est dans une société patriarcale, par exemple. C'est pas une loi absolue, mais c'est un bon indicateur. Et donc, en fait, ce qui fait que quand il y a une monnaie unique, par exemple, il va y avoir une concentration des richesses assez pyramidale, et du coup, en haut, à la tête, il va y avoir des gens qui ont plus d'argent. Et comme par hasard, les personnes qui ont le plus d'argent dans le monde aujourd'hui sont des hommes cis, hétéros, blancs, qui cumulent les richesses, mais aussi qui cumulent ce qu'on appelle le capital symbolique, donc c'est-à-dire à la tête des institutions. Ça va être même, par exemple, à l'Institut du Monde Arabe, par exemple, ça va être un homme blanc qui va diriger, etc. Donc on voit vraiment dans quasiment tous les champs, plus on monte, par exemple, je sais pas, dans le champ de l'éducation, il y a beaucoup de femmes professeurs des écoles, mais directrices d'université, il y en a beaucoup moins. Donc on voit que dès qu'on monte, en fait, il y a souvent un père... symbolique. Il y a des femmes qui peuvent tout à fait être comme les hommes et surimiter ce modèle-là et devenir tout autant, voire plus oppressive dans des structures de domination, mais souvent quand même il y a une figure du père et on est conditionné à aduler, apprécier le père, le patron, le pape, enfin toutes ces figures d'hégémonie absolue. Et du coup, ce que je développe, c'est que c'est pas un hasard si après, dans toutes ces sociétés-là, il y a eu des religions monothéistes qui sont apparues et dont le dieu prend souvent des airs de père pour la majorité des croyants, ce qui n'est pas le cas de tous les croyants, mais même chez les chrétiens, il y a des gens pour qui Dieu est non-genré et queer, ouais. Tu vois, mais voilà.
Et du coup, parmi les pères symboliques qui existent dans l'espace public en France, enfin, PPDA est clairement un exemple frappant, parce qu'il était quand même élu personnalité préférée des Français, il était dans les Guignols, etc. Enfin, voilà, on peut parler peut-être de pères symboliques, enfin, je sais pas si, est-ce que c'est pertinent, est-ce que tu trouves ça pertinent
comme, bah oui, surtout qu'en fait, les pères symboliques, ce que j'explique, c'est qu'ils ont une impunité, en fait. Mmh. Et c'est pour ça qu'ils cherchent ça. C'est parce que, en fait, il y a c'est pour ça que je parle vraiment de culte, etc. Parce que, en fait, derrière ça, il y a un statut quasi divin de je peux tout faire, je suis au-dessus des lois, je suis intouchable. Et en fait, il y a une recherche, en fait, de ce que je dis, de pouvoir créer les lois, de pouvoir décider qui rentre, qui sort, qui va monter dans l'échelle, qui va descendre, qui va être éjecté. Et moi, je crée non seulement ces lois, mais en plus, je peux les désobéir parce que je suis boss, quoi.
Ouais. Mais il y a quand même un besoin de validation constant, oui, de la part d'autres hommes, même dans ces milieux-là, hein, dans l'exemple... voilà, de PPDA, je lisais un article il y a quelques jours en préparant cette rencontre, que voilà, PPDA et Nicolas Hulot, un autre père symbolique, auraient un système de points dans lequel, voilà, à chaque fois qu'ils baisent avec une femme, ils s'échangent les points, ils sont en compétition, et c'est quand même voilà, une illustration symbolique de ce concept-là, assez frappante. Voilà.
Je
sais pas si tu veux rajouter quelque chose, Florence, là-dessus.
No comment.
Mais je savais pas, mais c'est un super exemple, ça.
Bah voilà. Donc Léane, une bonne partie de ton essai, il se concentre sur le fait que l'éducation virile, elle est quand même pétrie d'injonctions contradictoires. D'une part, on apprend aux hommes à désirer les femmes, mais on apprend aussi à ne pas les considérer comme des individus à part entière, voire même à les mépriser. On leur apprend aussi à chercher l'admiration d'autres hommes et à préférer leur compagnie, mais tout en gardant une espèce de distance de sécurité sous peine d'être perçu comme homosexuel. Et tu cites de nombreuses situations, de nombreux contextes sociaux qui mettent ces contradictions en avant, par exemple. Les rugbymen qui crient « on n'est pas des PD » à la répétition avant chaque match. Selon toi, qu'est-ce que ça exprime, cette ambiguïté chez les hommes hétéros? Et comment est-ce que ces injonctions contradictoires, elles peuvent finir par se traduire en violence, que ce soit envers des femmes ou envers des personnes queer?
En fait, oui, il y a forcément une tension qui naît quand on est en ce qu'on appelle en dissonance cognitive. Donc la dissonance cognitive, c'est quand on nous demande de faire ou qu'on fait plusieurs choses qui rentrent en contradiction. Et donc là, on voit que l'identité masculine de base repose sur une instabilité, repose sur une ambivalence très profonde, puisqu'on leur demande, pour caricaturer, à la fois d'être amant des femmes, sexiste et homophobe. Et si on met les trois bout à bout, c'est pas possible. Donc en fait, si on essaye absolument de coller à ces trois... trucs, forcément ça crée une tension, en fait, parce que c'est contradictoire. Donc du coup, de cette tension, il peut naître un sentiment de frustration. Et comme on éduque les dominants, et là dans ce cadre de figure les hommes, à considérer que c'est la faute du dominé si on est frustré et si on n'est pas bien, et cette frustration, elle va se reporter soit sur les homosexuels, soit sur les femmes. Parce que par exemple, on dit beaucoup que les hommes aussi, ils sont victimes de violence, oui, mais en immense majorité, ils sont victimes de violences par d'autres hommes aussi, et c'est bien de le spécifier. Donc, du coup, voilà. c'est un peu comme ça que ça peut naître pour faire très vite et très raccourci.
Passons aux femmes. Il y a un passage de ton livre, moi, qui m'a pas mal marqué, que tu as cité. C'est un extrait de la journaliste Marie Charel qui dit « Toute leur vie, les femmes sont, à degrés divers, des reflets dans un œil d'homme. L'homme à l'extérieur et surtout l'homme à l'intérieur d'elles. » Ce passage, il m'a interpellé parce qu'il fait quand même pas mal écho à ce que Florence décrit dans Honte, parce que ce regard masculin internalisé, il se traduit en pratique par une série d'injonctions qui génèrent de la honte chez les jeunes filles en construction. Et ces injonctions, elles peuvent être assez toxiques en pratique. Donc dans Honte, tu racontes comment certaines de ces injonctions, parfois contradictoires, ont été fondatrices dans ton expérience personnelle. Est-ce que tu peux nous en décrire quelques-unes et est-ce que ton rapport à ces hontes a changé à suite à l'écriture de ce livre ?
Les petites filles sont éduquées avec un certain nombre d'injonctions et c'est vrai que je prends une toute petite expérience personnelle parce que je pense qu'elle dit beaucoup et je suis pas la seule à l'avoir vécu, c'est pour ça qu'elle est intéressante. J'étais en sport-études pendant 10 ans, dès le CP, et en fait, dès les premières années au gymnase, on me demandait de rentrer mon ventre. On était en juste au corps, hein, donc vraiment, on était en juste au corps la moitié du temps de notre scolarité. Et les entraîneurs demandaient aux petites filles de rentrer leur ventre, mais ne le demandaient pas aux petits garçons. Alors qu'un corps d'enfant, c'est un corps avec un petit ventre qui est relâché, et c'est bien normal, ça s'appelle un corps d'enfant. Et en fait, très vite, nous, petites filles, on a intégré l'idée que laisser son ventre relâché, c'était trop la honte, quoi. C'était vraiment... On avait des brimades. Et puis même, effectivement, il y a cette espèce de regard masculin déjà intériorisé tellement petite où on savait bien, en tant que petite fille, qu'on devrait, par la suite, séduire des hommes et que c'est pas en relâchant notre ventre qu'on pourrait le faire. Et donc, en fait, ça implique le fait de, dès toute petite, penser... tout le temps à rentrer son ventre, mais ça devient une charge mentale en fait qu'on a tout le long de notre vie et même encore aujourd'hui c'est tellement intégré, ça fait partie vraiment de non seulement de mon esprit, de ma charge mentale, mais de mon corps. Enfin, je veux dire, il y a même chez moi quand je suis toute seule, et je suis toute seule la plupart du temps parce que je vis seule, je me dis ah, mais oui, mais en fait ça sert à rien que je rentre mon ventre. Enfin, je veux dire, je m'en fous en fait. Enfin, même quand je croise un miroir, ça ne me dérange pas. Et ce que je dis dans le livre, c'est que il me semble que le ventre féminin non maternel est un impensé féministe. Je n'ai jamais lu d'écrit féministe qui pense le ventre des femmes, le ventre non maternel des femmes. Parce que je pense qu'il y a vraiment un sujet dessus. Mais évidemment, je cite bien d'autres injonctions, notamment à se maquiller pour paraître présentable, mais pas trop. Parce que sinon ça fait pute, être mince, mais pas trop maigre, parce que sinon c'est repoussant. Enfin bon, bref, on a des injonctions contradictoires, mais tout le temps, s'habiller un peu sexy, mais pas trop, parce que voilà. La vie d'une femme, et j'ai l'impression, est remplie d'injonctions contradictoires, et il faut vraiment qu'on trouve cet équilibre qui est impossible à trouver. Hein. C'est vraiment l'exemple de la femme parfaite qui ferait tout parfaitement bien, qui répondrait aux injonctions. Ça n'existe pas. Et c'est normal, ça ne peut pas exister. Ça s'appelle un idéal et par définition, ça n'est pas atteignable. Et donc, on a toute une économie qui est basée sur nos hontes, la honte de nos poils, parce qu'il faut que les femmes évidemment s'épilent, la honte, alors qu'encore une fois ça c'est juste un corps humain, la honte de nos rides quand on commence à vieillir et donc on nous vend des anti-rides, la honte de nos cheveux blancs et donc on nous vend des colorations, bref, et c'est des milliards qui sont brassés par an qui sont vraiment c'est le business de la honte, d'avoir un corps qui juste est un corps, qui existe déjà point, et qui ensuite vieillit parce que c'est le lot de tout le monde et c'est bien normal. Donc, ça me saoule, en fait, que, évidemment, bien entendu, tout ce business des cosmétiques, de tout ce qui a trait à l'apparence, de la chirurgie esthétique qui explose chez les jeunes, ça c'est absolument terrifiant, c'est-à-dire que les jeunes, aujourd'hui, ils anticipent les problèmes qu'ils vont avoir plus tard. C'est quand même assez terrifiant. Il y a un livre qui est sorti chez La Thèse il n'y a pas longtemps sur ce sujet, une enquête, j'ai oublié le titre, mais... Ou le... C'est quoi ?
Le bistouri.
Le bistouri. possible. En tout cas, Google est votre ami ou tout autre moteur de recherche. Mais c'est il y a vraiment voilà toute une économie basée sur les hontes que l'on peut ressentir et qu'on nous a imposées en fait, parce que c'est la société qui nous impose ces hontes. Et je trouve ça absolument scandaleux et révoltant. Et ça me tenait à cœur de les décrypter et de les analyser dans ce livre. Et bien entendu, ce sont des hontes qui le plus souvent sont projetées sur des femmes.
Alors évidemment, bah, ce regard masculin comme norme, il est aussi en grande partie normalisé dans le paysage culturel. Et il se trouve que dans la littérature féministe, il y a une longue tradition de dénonciation de la place des femmes dans les représentations culturelles au sens large, donc de leur invisibilisation déjà, mais aussi quand elles sont représentées, c'est souvent sous la forme de faire-valoir, de love interest, et plus généralement sous la forme d'un corps fantasmé, voire fétichisé dans certains cas, qui est placé sous ce fameux regard masculin. Donc dans les années 20, c'était relevé par Virginia Woolf, qui avait déjà du mal à trouver des livres qui décrivent une amitié féminine. Dans les années 80, c'était Alison Bechdel qui faisait un constat similaire avec son fameux test de Bechdel qui s'applique au monde du cinéma. Et vous aussi, Léane et Florence, vous dédiez une partie non négligeable de vos ouvrages aux limites des représentations féminines dans la littérature, le cinéma ou encore la publicité. Donc aujourd'hui, moi j'ai l'impression, que je parle pour moi tout seul, qu'on a beaucoup plus réfléchi à ces questions de représentativité. On va mettre de plus en avant l'histoire, je sais pas, de femmes scientifiques, de femmes racisées. Au cinéma, on voit de plus en plus apparaître des héroïnes badass. Mais si on se permet de prendre du recul, au-delà de ces discours-là, est-ce que vous avez l'impression que les représentations médiatiques des femmes, elles évoluent dans le bon sens aujourd'hui ? Peut-être, Léane, tu veux commencer ?
Oui, dans le livre, il y a toute une partie où je parle des losers, où j'explique pourquoi est-ce que les hommes adorent les représentations au cinéma de losers. Il y en a plein des films comme ça, où le gars, genre, il est en peignoir tout le temps, et en fait, c'est toutes les femmes autour de lui, ça c'est jamais montré, mais genre, par exemple, je me souviens, putain, j'ai plus aucun nom en tête, mais... Et le truc où ils font la fête et où ils cassent tout, là.
Very Bad Trip.
Voilà, Very Bad Trip. Bah, par exemple, tu vois, Very Bad Trip, c'est des gros losers, et puis ils pètent tout, ils se bourrent la gueule et tout. Et en fait, ce qu'on voit pas à la fin, ou qu'on voit tout à la fin, c'est que c'est leur meuf qui galère à organiser le mariage et à tout remettre en cause et tout. Et j'ai essayé de trouver des films où il y avait des femmes loseuses, et j'en ai pas trouvé. Genre, vraiment, j'ai vraiment cherché beaucoup, et il y avait aucun film. En fait, genre, les femmes... Il faut qu'elles fassent des trucs héroïques, il faut qu'elles soient incroyablement vertueuses, sinon leur histoire mérite pas d'être racontée, elles ont pas le droit d'être banales, sinon c'est genre en mode les producteurs ils sont en mode bah pourquoi les hommes ils vont pas s'identifier à elles alors que nous on a appris à s'identifier aux hommes. Et par contre j'ai vu là récemment un moyen métrage de 40 minutes dans un festival féministe d'une loseuse qui était, si c'était vraiment une loseuse, et c'était vraiment bien, et j'étais en mode c'est trop cool. Bon, mais du coup, je me souviens plus, faudrait que je re-regarde Le Roi David. Bon, après, c'est une loseuse, mais elle a quand même vécu des violences conjugales juste avant, qui explique aussi en partie qu'elle soit une loseuse, donc c'est quand même pas tout à fait pareil. Mais c'était vachement bien, et du coup, la productrice disait qu'elle avait eu énormément de mal à financer ce film, parce que tout le monde lui disait, mais ce personnage est horrible, cette femme, elle est odieuse, on n'a pas du tout envie de l'aimer, genre vraiment, c'est pas possible. Et du coup, elle a dû vachement batailler et tout, et donc c'est vraiment dur, franchement, quand on va voir des réalisatrices femmes qui souvent, en plus, sont souvent blanches, viennent déjà de milieux très bourgeois, et même quand on est blanche, hétéro, cis, de milieux très bourgeois, et qu'on est une femme et qu'on veut faire du cinéma, c'est déjà très très dur, parce qu'il faut de l'argent, et en fait les femmes n'ont pas d'argent, beaucoup moins, et c'est un puits financier, encore plus que d'écrire un livre, parce que écrire un livre c'est un puits financier, mais faire du cinéma c'est autre chose en termes d'économie d'échelle, et du coup je pense que c'est compliqué. Aujourd'hui dans les séries il y a beaucoup de représentations LGBT dans les séries Netflix par exemple, ça commence à arriver un peu, mais c'est toujours des seconds rôles très superficiels, pas forcément attachants. Il y a la série The Last of Us là, qui est géniale, où il y a de très belles représentations queer, qui sont humaines, qui touchent tout le monde, qui sont pas là pour placer des personnes LGBT, et qui sont vraiment des belles histoires humaines. Donc ça bouge un peu, mais attention au retour en arrière. Et on voit qu'aux États-Unis énormément de livres et de films sont interdits, donc faut rester vigilante, et il y a encore énormément de travail, je trouve. Voilà.
Merci Léane.
C'est même pas 20% de femmes représentées, et je sais pas combien de réalisatrices, mais c'est dérisoire, quoi. Vraiment. Ouais.
Alors j'ai pas les chiffres précis en tête, mais il est bien certain que dans les médias en France, les femmes sont évidemment sous-représentées quand elles sont invitées, et quand on les voit dans les médias, elles ne sont pas là en tant qu'expertes, mais souvent en tant que témoins ou en tant que victimes. Donc là, alors ça évolue, hein. Ça évolue bien évidemment, ça évolue en mieux, et c'est une très bonne chose, mais ça va pas assez vite. C'est-à-dire qu'on aimerait voir plus de femmes expertes sur les plateaux, et on a eu une très très belle d'ailleurs illustration pendant la pandémie, où quand c'était les femmes qui trimaient comme des malades, les infirmières, c'était pas les femmes qu'on voyait sur les plateaux, c'était des experts, d'ailleurs parfois de rien du tout. Voilà, c'était assez hallucinant. Enfin, je me souviens de cette une, je sais plus si c'était le Parisien ou Libération ou Le Monde, je sais plus, la une d'un grand quotidien en tout cas, qui avait donné la parole à 4 hommes pour définir le monde de demain. 4 hommes blancs, oui, bien sûr, et de plus de 50 ans, si mes souvenirs sont bons. Bon, j'apprécie énormément d'hommes de blancs de plus de 50 ans, c'est pas le sujet, mais c'est bien pour le monde de demain de donner la parole à plus de diversité, par exemple. Donc, on n'y est pas encore, malgré tout, il y a des raisons d'être optimiste parce que ça évolue, alors beaucoup trop lentement, à mon goût, mais en tout cas, c'est des sujets qui ne peuvent plus être balayés d'un revers de la main, c'est-à-dire que quand les féministes s'expriment dessus, elles ont des chiffres, parce que maintenant il y a des données chiffrées, et nous sommes écoutés parce que c'est quelque chose depuis MeToo qui ne peut plus n'être qu'un truc de bonne femme. Et c'est en ça que je suis optimiste, moi, finalement, de manière globale, même si, Léane, t'as raison, il faut rester très vigilante. C'est que ces sujets-là, la question de la représentativité, de l'invisibilisation des femmes, la question des violences sexistes et sexuelles, ce sont des thématiques qui, avant MeToo, pour schématiser très grossièrement, hein, étaient un petit peu balayées du revers de la main des gens qui étaient dans les médias, enfin, à des postes de pouvoir ou en politique, en disant bah, c'est des trucs de bonnes femmes, ça nous intéresse pas vos trucs, et puis de toute façon toutes des menteuses, et puis voilà, toutes des putes, enfin bon bref, je schématise à peine. Aujourd'hui, ce sont des sujets politiques qui ne peuvent plus être balayés, tout simplement, et donc on en parle, même s'il y a encore de grands progrès à faire, ce sont des sujets qui sont pris au sérieux. Et ça me permet de rester optimiste sur sur l'avenir, tout simplement, parce qu'il en faut quand même un peu d'optimisme.
On va y venir, hein, sur l'optimisme, bien sûr. On n'est pas là pour mettre que du seum. Alors, en parlant de seum, parlons d'amour. Donc l'un des mythes fondateurs de nos sociétés occidentales contemporaines, c'est celui de l'amour romantique hétéro-monogame. C'est une certaine vision de l'amour, hein, qui nous est vendue absolument partout, dans des livres, dans des films, des séries, des chansons. Si on en croit ces produits culturels, il n'y aurait même rien de plus beau. Et cette vision de l'amour romantique aurait même le potentiel de sauver le monde, rien que ça. Donc on baigne tellement dans cette culture que beaucoup ont l'impression que l'hétérosexualité et l'amour romantique ont existé de tout temps et de façon universelle dans toutes les sociétés du monde. Et certains vont même jusqu'à l'avoir comme une sorte d'impératif biologique. Alors ce système normatif, il crée évidemment des injonctions et des discriminations envers des personnes qui ne se reconnaissent pas dans ce modèle, et en particulier les personnes queer, hein, qui sont souvent vues comme déviantes, voire malades dans certains contextes culturels. Je tiens à rappeler à ce titre que ce n'est qu'en 1990 que l'OMS a rayé l'homosexualité de sa liste des maladies mentales, et en 1992, l'année de ma naissance, que cette décision a été rendue effective en France. Donc Léane, ce que tu montres dans ton livre, et que j'ai appris au passage, c'est que l'amour romantique et la notion même d'hétérosexualité sont en fait des conceptions qui sont relativement récentes, qui sont apparues au 19e siècle. Donc est-ce que tu peux nous raconter leur histoire dans les grandes lignes, et la manière dont ce modèle relationnel a été imposé au point de devenir la norme aujourd'hui ?
Alors, gros sujet, on va s'arrêter pour ce qui est occidental, sachant qu'on a colonisé 80% du globe et qu'on a importé nos normes et valeurs, ensuite, pour l'hétérosexualité et l'amour romantique, c'est deux choses différentes. L'hétérosexualité, à la base, c'est un terme qui vient de la psychiatrie, et c'était une pathologie pour un homme d'être hétérosexuel, puisque un homme hétérosexuel, c'était un homme qui aimait trop les femmes, et c'était considéré comme bizarre, parce que vu que c'est des êtres inférieurs, si tu t'intéresses trop à un être inférieur, t'es un peu chelou. Donc c'était tout autant pathologisé qu'un autre mot qui était l'homosexualité, qui était là le fait de se conduire comme une femme, parce qu'en fait le péché des femmes c'était celui de séduire, et donc si on séduisait un homme on devenait une femme un peu par extension. Et ensuite il y avait aussi les féministes. Alors les féministes c'était une insulte qui équivaut à tapette aujourd'hui, et ensuite qui a été repris par les femmes pour défendre les droits, etc. Mais à la base c'était une insulte pour qui est adressée aux hommes qui étaient trop gentils avec les femmes, vraiment c'était ça. Et donc ça c'est des conceptions très récentes en fait, ce qui est de l'identité médicale, etc. Et c'était vraiment dans ce que Michel Foucault, le philosophe, appelle une entreprise de biopouvoir. Donc c'était un peu de pouvoir inciter les gens à l'aveu, à s'identifier, se cartographier selon des nouvelles dispositions, à une période où il y avait l'hystérie pour les femmes qui était en pleine extension, etc. Donc c'était vraiment, il s'agissait de trier les bons sujets des mauvais sujets dans quelque chose qui, pour moi, plus tard, a donné un peu les racines du fascisme contemporain, avec cette idée de pureté des corps et de corps qui sont impurs, etc. Ça sentait déjà pas bon. Et pour ce qui est de l'amour romantique, alors là, c'est apparu... Alors, les gens sont toujours tombés amoureux de tout temps, de tout lieu, je pense. Sauf que c'était pas forcément hétéro, etc. Et c'est compliqué parce qu'il y a eu un peu plein de phases différentes. Il y a par exemple au Moyen-Âge, les chevaliers partager le même lit, avaient des relations amoureuses, sans forcément, les historiens peuvent pas dire s'il y avait des rapports sexuels ou pas, on n'était pas dans le lit avec eux. En tout cas, c'était pas dit, parce que il y avait des époques où toute forme de sexualité non reproductive, qu'elle soit hétéro, homosexuelle ou pas, était proscrite. Donc voilà, après on a l'Antiquité, notamment grecque et romaine, bon ça un peu connu, que quasiment la totalité des hommes n'étaient pas étrangers au rapport homosexuel. Ce qui est marrant, c'est de voir que selon les historiens, ils sont, voilà, c'est vraiment des estimations parce que c'est compliqué, il y avait quand même une partie des hommes qui restaient 100% hétéros. Et ça, je trouve que c'est marrant parce que je pense qu'en fait on peut résumer ça très clairement, c'est que c'est comme la nourriture. Genre par exemple en Inde, nous on a l'impression que c'est hyper épicé ce qu'ils mangent et tout, et eux ils sont habitués parce que ils mangent ça depuis tout petit, etc. Et nous en France, on est habitué à manger du camembert, et il y a des gens qui vont pas aimer le camembert, on sait pas pourquoi, et la majorité des gens vont l'aimer parce qu'ils sont conditionnés à ça. Et ben c'est avec les désirs romantiques et sexuels, c'est à peu près la même chose. La majorité se conforme à la norme, et il y a toujours des gens qui dérogent à la règle et on sait pas bien pourquoi. Et pour du coup l'amour romantique, c'était j'essaie de faire vite mais c'est un peu compliqué, c'était du coup avec la bourgeoisie. Donc en fait quand on a en France on a renversé l'ancien régime, il fallait réinventer une nouvelle forme de supériorité morale pour que la bourgeoisie puisse asseoir son pouvoir sur les autres en disant nous devons dominer parce que nous sommes supérieurs moralement. Et c'est avant, avec la noblesse ça passait par le sang, et là il fallait passer par autre chose, et du coup c'est passé par une nouvelle forme de raffinement qui était l'exaltation des sentiments. Et donc là est apparu le romantisme au sens où on l'entend aujourd'hui. C'est juste que avant, par exemple, le fait de tomber amoureux et tout le monde s'en foutait. Ce qu'on voulait savoir, c'était si t'étais un bon catho qui respectait bien les préceptes religieux, si t'allais bien à la messe et tout. Mais alors que tu sois amoureux de Jean-Jacques ou de la fille du voisin, enfin tout le monde s'en carrait vraiment, vraiment, vraiment. Et maintenant, c'est devenu un impératif social, une reconnaissance sociale, un goal vraiment. Et en fait, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on voit qu'au fil de l'histoire, ce mythe un peu de genre il faut tomber amoureux, trouver sa moitié, nanana, et surtout ce truc de c'est le sentiment le plus fort, le plus puissant, en fait on voit qu'au fur et à mesure que les femmes ont gagné en autonomie, ce mythe est monté. En fait, comme si c'était passé d'une injonction à l'hétérosexualité qui avant était par une dépendance économique à ce qu'on appelle un soft power, donc à des représentations culturelles qui vont nous pousser à faire la même chose. Et juste pour finir, non mais je crois que j'ai fait à peu près le tour, enfin je sais pas.
T'as couvert quand même 2500 ans.
Oui, non, c'était très caricatural, et j'espère qu'il n'y a pas d'historien dans la salle parce que du coup les précisions ne sont pas là. Mais voilà.
Merci Léane. Et donc, pour terminer, on a quand même pas mal évoqué différents types de violences causées directement ou indirectement par ce modèle hétéronormatif, patriarcal, voilà. Mais maintenant qu'on a fait ce constat, comment est-ce qu'on sort de ce cycle infernal de la violence masculine ? Comment est-ce qu'on agit à l'échelle individuelle et collective, par exemple dans les médias ou même dans le gouvernement ? Comment on fait pour qu'ils ne servent plus la soupe à des violeurs et à des agresseurs sexuels ? Comment est-ce qu'on fait pour que la parole des victimes de VSS soit entendue et prise au sérieux ? Et comment on fait plus généralement pour repenser les masculinités et les relations amoureuses, amicales, sexuelles, pour développer des liens plus forts, plus sains, plus sincères ? Donc je suis bien conscient que c'est une question ultra vaste, mais selon vous, par quoi est-ce qu'on commence ?
Alors je propose un certain nombre de propositions de solutions, parce qu'évidemment les solutions je ne les ai pas, mais de propositions pour se débarrasser de la honte d'être une femme, la honte d'avoir été violée, la honte d'avoir été... toutes les sortes de honte qu'on peut ressentir. Et pour que la honte change de camp, justement, parce que c'est un petit peu l'idée finale, je propose de tourner en ridicule les propos qui sont problématiques, qui entrent pleinement dans la culture du viol et qui n'en sortent pas. Parce que s'il y a bien quelque chose d'extrêmement fragile chez les hommes blancs, cisgenres, bourgeois, hétérosexuels de plus de 50 ans, c'est leur ego. Non, mais vraiment, c'est quelque chose que je constate. Alors, il n'y a pas d'études scientifiques, hein, je ne pourrais pas en citer, mais je constate.
Le titre, c'est.
Je ne sais pas, si tu connais des psychosociologues, je ne sais pas qui pourrait faire ce genre d'études, mais en tout cas, je constate que l'ego de ces hommes-là est extrêmement fragile et je pense que tourner en ridicule leurs propos, hein, et je tiens bien à dire qu'il faut tourner en ridicule les propos et non pas les personnes, parce que je ne veux pas de harcèlement, ça, il ne faut pas, c'est pas bien. Mais quand des hommes défendent des mises en cause de violences sexuelles ou quand ils tiennent des propos qui entrent dans la culture du viol à répéter des poncifs et des mythes et des absurdités qui n'ont vraiment aucun sens, il faut vraiment tourner en ridicule ces propos, en fait. Et quand ils seront ridiculisés publiquement sur un plateau télé, dans un studio de radio ou devant un public, et que ça se répétera encore et encore, ils auront plus du tout envie de tenir de tels propos. Et peut-être qu'on avancera un petit peu dans la disparition de la culture du viol, parce que globalement, il faut se débarrasser du patriarcat, c'est ça la solution. Hein. Mais c'est compliqué, on n'y arrivera pas en un seul jour, malheureusement. Et je pense que ça peut être une des solutions à trouver. Ça serait intéressant, en tout cas, de se faire une fiche avec un type de réponse selon tel propos, parce que toujours les mêmes qui reviennent, on peut faire un bingo. Hein. Se prendre le bingo. C'est vrai. Je vais le faire d'ailleurs. Et apprendre par cœur des réponses que des journalistes, des chroniqueurs, des éditorialistes pourraient sortir quand ce genre de propos arrive. Je pense que ce serait. En tout cas, c'est une des solutions que je propose dans mon livre. Concernant les violences sexistes et sexuelles, je propose aussi d'appliquer tout simplement la loi qui existe sur l'éducation sexuelle à l'école. La loi existe, hein. C'est juste qu'elle n'est pas mise en application. Et d'ailleurs, récemment, il y a 3 associations qui ont porté plainte contre l'État pour justement ne pas appliquer cette loi. Donc une éducation sexuelle à l'école comme la loi le prévoit, ça me paraît être une solution tout à fait raisonnable à mettre en place. Bon, évidemment, il faut des moyens et une volonté politique, Darmanin démission. Il y a d'autres, évidemment, propositions de solutions que je propose, mais peut-être que Léane, toi, tu en as d'autres.
Moi, je suis complètement d'accord avec l'humour. Je trouve que c'est super important. Et d'ailleurs, on voit que dans les pays où il y a un régime dictatorial, l'humour permet vraiment de faire tomber en fait les systèmes de domination. Et c'est vraiment un outil politique qui est hyper important. Donc, je suis complètement d'accord. Et dans les solutions concrètes, c'est compliqué. Il y en a beaucoup. Moi, je trouve qu'un des trucs aussi, c'est qu'on peut faire assez simplement, c'est ça demande un petit peu d'entraînement, mais c'est d'arrêter d'y aller avec des fleurs ou de... Parce qu'en fait, nous, les femmes, on est vachement conditionnées à être dans le care et dans l'éducation. Sauf qu'en fait, les hommes ne respectent pas ça, parce qu'ils ont eu une mère qui n'a pas été respectée socialement pour le fait de les avoir élevées et qui l'a fait gratuitement. Or, on est dans une société capitaliste où ce qui est gratuit n'est pas considéré comme ayant de la valeur. Donc, le travail des femmes en fait partie. Donc, il a eu maman qui s'est occupée de lui gratuitement, souvent ses sœurs. C'est prouvé, elles font beaucoup de puces à la maison que les frères. Je suis bien placée pour savoir, j'ai 2 frères. Ensuite, il y a eu, il y a quoi ? Les professeurs des écoles, qui aujourd'hui sont en majorité des femmes, Et après, les RH, les infirmières, etc. En fait, toutes les personnes qui sont dans l'éducation autour des hommes sont des femmes. Et du coup, en fait, comme ce que je disais, les femmes sont dévaluées, et ça fait que la pédagogie, ça ne marche pas avec les hommes parce que les hommes n'apprennent pas à valoriser la pédagogie des femmes. Et en fait, on nous fait croire que, genre, par exemple, aux féministes, on nous répète beaucoup qu'il faut dire les choses gentiment, qu'il faut passer par un milliard de détours. Et en fait, genre, c'est vraiment une façon de nous soumettre. Mais c'est aussi une façon vachement de nous soumettre parce qu'on est tout le temps en mode j'ai peur que ça tape, j'ai peur qu'on me tape, j'ai peur. Mais en fait, on va te taper dans tous les cas, donc autant y aller, let's go. Voilà, et du coup, je pense qu'il y a un truc, franchement, d'expérience pour avoir beaucoup côtoyé des milieux masculins, parce que j'ai deux frères, j'ai été élevée par mon père et tout. En fait, au début, j'étais vraiment la féministe qui s'excusait beaucoup, et du coup, je m'en prenais plein la gueule, et jusqu'au jour où j'ai compris en fait que non, ça allait être comme ça, et genre, mais ça, c'est des trucs qui peuvent, c'est collectif en fait, genre quand collectivement t'arrives et tu dis non, en fait, c'est comme ça, on va s'asseoir si tu veux, on s'assoit, on discute. Là, en fait, ils comprennent, mais c'est malheureux, mais en fait, parce que c'est la façon dont ils ont été éduqués, en mode, t'as un truc à me dire, tu me le dis, je caricature, mais du coup, et là, j'ai compris que ça marchait beaucoup mieux et que je gagnais beaucoup plus de temps et que surtout, j'étais beaucoup moins fatiguée, beaucoup moins stressée. Donc, je pense que collectivement, il y a ce truc de dire, genre, en fait, on peut ouvrir la fenêtre d'Overton et on peut aller beaucoup plus loin dans les revendications, dans ce qu'on pense être juste, etc. Et ça, la force du collectif fait que quand on est plusieurs à être en mode let's go, si moi j'ose pas sur ça, l'autre va le faire, etc. Avec beaucoup de créativité et d'agentivité. Et donc voilà, du coup, genre ça fait un peu méritocratique, mais genre oser collectivement dépasser ce que nous-mêmes on a intériorisé comme étant interdit socialement, c'est intéressant.
Et donc, acheter le livre de Léane, poser ses gonettes sur la table, s'armer de ses meilleures blagues. Je pense que ce sont des conseils très sages. Ouais. Et c'est là-dessus qu'on va terminer ce petit entretien. Donc, j'aimerais remercier infiniment nos deux autrices, Léane et Florence, pour cette conversation extrêmement riche. On peut les applaudir.
Et merci à Sébastien qui a préparé tout ça d'une main de maître.
Eh ben, merci. Merci à vous, tout simplement, d'être venus aussi nombreux et nombreux, que ce soit en ligne ou sur place. Merci à Axel et Barnabé pour l'aide à la préparation et à la communication autour de cet événement. À Agathe aussi, des éditions J.C. Latesp, qui a émis l'idée de cette rencontre. Vous pourrez retrouver bientôt le replay de cet entretien sur notre podcast Les Événements Utopia, qui est diffusé sur les plateformes Deezer, Spotify et Arte Radio. Et une fois n'est pas coutume, si cet enregistrement est de qualité, il sera aussi disponible sur le podcast Mécréante de Léane, que je vous encourage vivement à écouter et à partager autour de vous, puisqu'il est excellent et qui traite de sujets très variés. Sur ce, je vous remercie, je vous souhaite une belle soirée et je vous dis à très vite.
Merci.